Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité cette semaine est
Paul Benkimoun. Je suis médecin de formation et journaliste spécialisé sur les questions de santé au journal Le Monde.
Justement, tous les 1er décembre, quand je lis Le Monde, j'ai le droit à la fameuse première page qui m'annonce que la situation pour ce qui concerne le sida dans les pays du tiers-monde en particulier est absolument catastrophique. Mais j'y ai droit absolument tous les ans. Alors la dernière fois que je l'ai lu, j'ai appris qu'il y avait 42 millions de personnes séropositives dans le monde. Mais j'apprends aussi au fur et à mesure de mes lectures qu'il y a des négociations au sein de l'OMC sur l'accès des pays du Sud au traitement du sida. J'ai cru comprendre que les choses n'étaient pas simples, que ces derniers temps, c'était les dernières informations, les USA avaient une position quelque peu peut-être contestable. J'espère qu'on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Si on revient un petit peu sur les chiffres, 42 millions de personnes infectées dans le monde, mais combien dans le tiers-monde environ ?
Le rapport est assez caricatural. Plus de 90% des personnes porteuses du virus du sida vivent dans le tiers-monde. Et c'est vrai qu'en particulier, le continent le plus lourdement touché est l'Afrique. Mais les dernières statistiques qu'avaient fournies les institutions internationales montraient que malheureusement des pays, voire des sous-continents, l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie, étaient des pays dans lesquels l'épidémie était en train d'exploser. Donc vraisemblablement, ça ne changera pas le rapport global. Vraiment, les pays riches sont très minoritairement infectés par rapport au reste de la planète, mais simplement ce qui était jusqu'alors une catastrophe africaine risque de devenir véritablement une catastrophe du tiers-monde, et pas seulement. C'est pour ça que malheureusement, je crains que vous n'ayez encore quelques 1er décembre devant vous à lire des nouvelles un peu démoralisantes.
Actuellement, le sida fait 8000 morts par jour.
8000 morts par jour, c'est considérable hein, quand on peut comparer aux données que nous avons sur les morts dues aux accidents de la route. Il y a quelque chose de terrible qu'on pourrait presque parfois juger de cynique dans cette comptabilité. Parce qu'on se dit 8000 morts par jour, il suffit de comparer ce que représente une ville de 8000 habitants. Il y a quelque chose qui est révoltant, hein. En tout cas, je crois qu'on a beau écrire de manière mesurée, ça n'empêche que c'est révoltant, de se dire, on a une situation avec des villes finalement qu'on raye de la carte tous les jours, et pourtant on a des traitements qui ne guérissent pas la maladie, hein, on le sait bien, mais qui en tout cas font que les gens ne meurent plus inéluctablement, rapidement, en quelques années, mais qu'ils peuvent avoir une espérance de vie quasiment normale, hein, c'est ce que nous avons dans les pays comme le nôtre. Et malheureusement, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès à ces traitements, parce qu'ils n'ont pas accès à un système de santé dans les pays où ils vivent qui soit capable d'assurer le minimum, et parce que les efforts qui ont pu être faits, les avancées, il y en a heureusement, avec la baisse des prix de ces traitements, ont été insuffisants jusqu'à présent.
Il y a 230 000 personnes qui bénéficient de trithérapie dans le Sud, c'est ça ?
Voilà, c'est
sur 42 millions ?
Voilà, alors disons que l'Organisation mondiale de la santé avait évalué globalement, je crois, à 6 millions le nombre de personnes séropositives dont l'état de santé nécessitait la mise sous traitement. C'est une évaluation, disons, minimaliste, hein, mais qui se voulait, disons, raisonnable, pragmatique, quelque chose d'accessible, pour ne pas demander tout de suite. Et en regard de ce chiffre, donc de 6 millions de personnes qui devraient être sous traitement, on ne peut malheureusement aligner que ce chiffre quasiment dérisoire de 230 000 personnes. Et encore, faisait remarquer la directrice générale de l'OMS l'été dernier, la moitié de ces personnes séropositives sous traitement ont, entre guillemets, si je puis dire, la chance d'être brésiliennes, donc parce qu'au Brésil existe un programme national public de lutte contre le sida et d'accès au traitement, ce qui fait qu'il y a effectivement 110 000 Brésiliens qui sont sous traitement, mais on mesure donc, pour le reste du tiers-monde, Brésil exclu, que c'est une minorité absolument infime des personnes. Et encore, on pourrait dire, au sein de ces minorités, on sait que dans un certain nombre de pays, ce sont les gens qui peuvent se l'offrir, qui ont accès à ce traitement.
Pourtant, la solution, elle semblerait extraordinairement simple. Nous, on a beaucoup d'argent, on peut payer cher nos médicaments. Dans les pays du Sud, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc on a que leur faire des médicaments très très peu chers. C'est quoi finalement le problème? Pourquoi ça ne se fait pas?
Ce que vous dites, c'est ni plus ni moins le discours que tient, vous me direz, depuis qu'il n'est plus président, il a peut-être un discours qui peut être un peu plus radical. C'est le discours que tient Bill Clinton. Quand en juillet dernier se tenait la conférence internationale qui a lieu tous les deux ans sur le sida, qui rassemble aussi bien scientifiques que les associations, que des politiques, donc, il a expliqué, effectivement, c'est simple. Il faut que les pays du tiers-monde nous présentent la note en disant, voilà, on a besoin de temps. C'est aussi ce que les Nations Unies ont fait lorsque, en juin de l'année 2001, elles ont tenu une assemblée générale consacrée au sida. Faut se rendre compte que c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'une assemblée générale est organisée sur une question de santé. Mais comme on le sait à présent, depuis en gros l'année 2000, les États-Unis et à leur suite le Conseil de sécurité des Nations Unies considèrent finalement que le sida est une question de sécurité internationale. Et donc, en juin 2001 se tient cette Assemblée générale qui a lancé un fonds mondial chargé de lutter à la fois contre le sida et contre deux autres maladies, le paludisme et la tuberculose. Pour indication, il y a à peu près un peu plus de 3 millions de décès par an dus au sida, plus de 2 millions par an dus à la tuberculose. Et voilà, les maladies infectieuses causent 10 millions de morts par an. Donc on dit on fait un fonds. Ce fonds, d'après les évaluations d'économistes, devrait, pour pouvoir répondre aux besoins, être doté de 10 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, malheureusement, ce fonds n'a recueilli qu'un petit peu plus de 2 milliards de dollars. Donc on est loin du compte.
Des sous et des hommes, et nous sommes toujours en compagnie de Paul Ben Ki-moon, donc qui est le spécialiste des questions médicales, on pourrait dire, au monde. Je lis les journaux, je suis très très sérieuse, et j'ai cru comprendre que finalement, une des raisons qui faisait qu'on ne pouvait pas laisser un accès plus large, enfin disons une possibilité d'avoir des médicaments contre le sida à bas prix, était que les laboratoires privés qui avaient fait de la recherche ou qui continuaient de la recherche pour trouver des médicaments contre ces maladies, cette maladie ou d'autres maladies qui peuvent toucher les pays du Sud, donc ont absolument besoin d'argent pour faire de la recherche. Donc si on fait des médicaments à bas prix pour les pays du tiers-monde, il y aura moins d'argent pour la recherche, et donc l'affaire va péricliter. C'est un argument qui peut être valable.
L'argument n'est pas à réfuter comme ça du revers de la main, parce que c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises, donc elles n'échappent pas aux lois générales du marché, de l'économie qui sont à l'œuvre, et qu'effectivement, quand vous discutez avec des représentants de l'industrie pharmaceutique, ils vous disent, moins les Français, parce que les Français ont un peu tendance à avoir un discours angélique, mais les Américains, par exemple, vous disent, nous, on a des actionnaires, ils ont investi de l'argent, et donc ils attendent un retour sur leur investissement. Et par ailleurs, si l'on supprime si on affaiblit le système de protection de la propriété intellectuelle, en un mot, si on supprime les brevets, ou si on les attaque trop, finalement les entreprises ne pourront pas dégager les profits qui permettent de mener de nouvelles recherches, et on sait qu'on continuera d'avoir besoin de nouveaux médicaments, donc il ne faut pas toucher au système. Donc l'argument n'est pas totalement dénué de fondement. La question est que ce serait valable si on discutait d'entreprises qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des CD, qui fabriquent des jouets. Là, il y a quand même quelque chose qui coince, c'est que on ne peut pas considérer les médicaments comme une marchandise comme les autres, parce que c'est un besoin élémentaire. On se retrouve finalement dans une espèce de contradiction en disant c'est vrai, il y a des nécessités économiques, mais en même temps, est-ce qu'on peut admettre que si vous avez les moyens, vous serez soigné, si vous n'avez pas les moyens, vous ne serez pas soigné. C'est donc une logique d'ensemble. Mais encore une fois, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique qui a effectivement, sous la pression de l'opinion, baissé ses prix de manière très significative. Il y a aussi les responsabilités des États, à la fois des États du tiers-monde. On a cité tout à l'heure l'exemple du Brésil qui a, parce que l'aiguillon des associations de personnes malades ont entrepris ce programme, beaucoup de pays n'en ont pas fait autant. Donc il y a leur responsabilité, et puis il y a les responsabilités des gouvernants des pays les plus riches, qui, on le voit avec la question notamment du fonds, ne mettent pas la main à la poche comme ils devraient le faire.
Vous voulez dire que certains pays du Sud devraient peut-être être plus courageux ?
Je pense qu'ils devraient, d'une part, avoir une répartition de leurs efforts, une répartition budgétaire qui fasse que la santé ne soit pas la cinquième roue du carrosse. Mmh. Il y a un homme d'État, quel que soit le pays où il se trouve, a des devoirs, et notamment, l'un de ses devoirs, c'est la santé publique. Et puis, d'autre part, il y a aussi certaines situations un peu caricaturale, voire même en l'occurrence scandaleuse, comme certains hommes politiques, en l'occurrence le président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, dont les discours sur la question du sida sont pour le moins aberrants d'un point de vue scientifique et irresponsables d'un point de vue politique, vu que ce pays qui à l'heure actuelle est celui qui a la en chiffres, en valeur absolue, la proportion, le nombre de personnes séropositives le plus important, disons 5 millions de personnes séropositives, continue de mettre des bâtons dans les roues pour l'accès aux médicaments, alors que l'Afrique du Sud, c'est pas le Mali, hein, c'est un pays qui a quand même des richesses, qui a quand même des infrastructures sanitaires, même si c'est pas dans tout le pays, et qui a aussi quelques capacités de production pharmaceutique.
Justement, en parlant de production pharmaceutique, il y a certains pays du Sud, tels que le Brésil, que vous citiez tout à l'heure, qui justement se sont lancés dans la production de génériques. Ça fonctionne comment cette histoire-là ? Ils le font en passant au-dessus des histoires de brevets
ou... Non, les Brésiliens se sont toujours défendus de violer la législation sur les brevets en vigueur dans leur pays. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une législation qui dit que jusqu'à telle date, les médicaments qui ont été, le brevet a été enregistré jusqu'à telle date, peuvent faire l'objet d'une copie, c'est-à-dire un médicament générique, donc qui est identique en tout point, d'aussi bonne qualité et aussi efficace. Et puis, passé cette date, ça n'est pas le cas. Donc, pour l'essentiel des médicaments utilisés pour traiter les personnes qui sont infectées par le virus du sida, les Brésiliens ont soit produit eux-mêmes, soit agité la menace de produire eux-mêmes pour obtenir des laboratoires internationaux, des multinationales, un prix qui corresponde finalement au prix que cela coûterait au Brésil. La Thaïlande a également engagé un programme de production de médicaments génériques, a même réussi à faire ce que l'industrie pharmaceutique internationale n'a pas réussi à faire, précisément parce qu'il y a des laboratoires concurrents. Eux ont fait une trithérapie, la combinaison de trois médicaments dans un seul comprimé. Donc finalement, avec une prise d'un comprimé par jour, le malade a son traitement au lieu de multiplier les prises. Donc ça, c'est possible quand il y a une politique publique. L'Inde, c'est un système différent, ce sont des producteurs privés, il n'y a pas de programme national vu que c'est un État fédéral. Alors il y a des États de l'Inde qui ont un programme, d'autres États qui ne l'ont pas. Mais il y a des pays pour lesquels il n'y a pas grand-chose. En Afrique, le Sénégal, qui n'est vraiment pas l'un des pays les plus touchés, hein. Le taux d'infection est beaucoup plus faible que dans d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire. dans des pays comme le Sénégal, il y a un programme qui a été mis en place, qui est un programme qui démarre forcément lentement avec des petits effectifs de personnes malades traitées. Mais il y a ces efforts-là, parallèlement à tous les efforts de prévention, parce que il ne faut pas tomber de l'autre côté du cheval. Pendant des années, les institutions internationales ont considéré qu'il suffisait de faire de la prévention parce que l'accès aux médicaments, c'était pas réaliste. Il faudrait pas abandonner la prévention sous prétexte qu'il faudrait que les personnes infectées puissent disposer aujourd'hui des traitements. Il faut aussi la prévention.
Et à Doha, c'était des négociations à l'OMC. Oui. L'ensemble de la communauté internationale s'était mis d'accord justement sur le fait que des génériques puissent être produits comme les expériences dont vous nous parliez, ou c'était pas exactement ça?
C'est-à-dire qu'en fait, à Doha, donc c'est une conférence interministérielle, les ministres de l'économie des pays membres de l'OMC se sont réunis. Il faut savoir que il y a le débat propre sur les médicaments, mais il y a également toute une série de négociations, un cycle de négociations, c'est comme ça que fonctionne l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui était bloqué, on se souvient peut-être, à Seattle, tout était bloqué, avec notamment du fait des protestations. Donc, sur la question de l'accès aux médicaments, la conférence de Doha en novembre 2001 était destinée à débloquer les choses. Lors de cette conférence, on règle finalement les questions des accords de propriété intellectuelle qui existent, en disant, notamment pour les pays qui produisent des génériques, on va donner une date butoir pour leur production, mais a priori, là il y a des interprétations différentes, mais disons que les interprétations les plus restrictives disent c'est pour leur marché intérieur, entre guillemets, pour leur propre pays, et on donne mandat à des structures de l'Organisation Mondiale du Commerce de parvenir à trouver un accord satisfaisant pour les pays les plus pauvres qui ne disposent pas de capacité de produire eux-mêmes des médicaments. Ça, il y avait une date butoir, fin de l'année 2002, elle a été dépassée sans qu'on soit arrivé à un accord, précisément parce que, en gros, schématiquement, on a les pays du tiers-monde qui disent « il y a des textes sur la propriété intellectuelle qui prévoient des exceptions » pour permettre à des pays soit de produire eux-mêmes, soit d'acheter sur le marché international, donc finalement au mieux-disant, au prix le plus bas possible. Faisons jouer à plein ces dispositions. Les États-Unis, qui ne veulent pas de ça et qui veulent vraiment qui ont une conception extrêmement restrictive et qui ne veulent pas que les productions de médicaments génériques soient dans le tiers-monde soient destinées à l'exportation. Et puis les Européens qui sont entre les deux.
Le problème est compliqué alors. Des sous et des hommes est toujours une émission donc, qui essaye de voir comment on pourrait s'en sortir de cette histoire de sida. Hors micro, tout à l'heure, vous m'aviez raconté une histoire assez rigolote dans laquelle finalement les États-Unis, qui ne veulent pas lâcher l'affaire sur le sida, eux se sont débrouillés justement pour user de cette possibilité de faire de passer outre les droits des brevets quand il s'était s'agit de
combattre l'anthrax, en fait. C'est-à-dire que les États-Unis, qui dénonçaient et voulaient même régler devant l'Organisation Mondiale du Commerce un contentieux avec le Brésil pour sa politique de générique, se trouvent frappés le 11 septembre. Je crois que tout le monde s'en souvient. Oui. Et à la suite de ces attentats, il y a ces alertes à l'anthrax. Et pour soigner l'anthrax, il faut des antibiotiques. Et donc les États-Unis, comme d'ailleurs le Canada, négocient avec notamment un laboratoire d'origine allemande, Bayer, des stocks d'antibiotiques considérables. C'est vraiment des millions et des millions de comprimés. Et les discours qu'a tenu à l'époque le secrétaire d'État américain à la santé étaient au moins aussi radicaux que ceux que des dirigeants du tiers-monde peuvent tenir, du style « s'ils pensent qu'on va acheter au prix qu'ils nous proposent, ils se fourrent le doigt dans l'œil, il faut qu'ils descendent, sans ça, on casse le brevet et on produit nous-mêmes ». Finalement, le laboratoire a obtempéré, bien entendu, mais c'est vrai que ça a beaucoup frappé tous ceux qui suivaient ces questions en disant « bah voilà, quand eux, les États-Unis, sont confrontés à une urgence sanitaire, bah, ils n'hésitent pas à faire ce qu'ils essaient d'empêcher les autres de faire vis-à-vis du sida et des autres maladies ».
C'est gai. Est-ce que finalement on peut quand même entreapercevoir une sorte de bout du tunnel, ou quels espoirs on peut avoir. Est-ce que pendant encore 40 ans, je vais lire la une du Monde le 1er décembre?
J'aimerais vous dire non, bien évidemment, et vous dire non le plus vite possible, on donnera les bonnes nouvelles. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles viennent. Alors, d'une part, il y a eu cette initiative que j'ai évoquée des Nations Unies, donc une initiative des gouvernementales internationales, de créer un fonds. Donc ça, effectivement, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va quand même aller en direction des pays qui en ont besoin, même si on est très loin du compte par rapport à la réalité. On sait que George Bush a annoncé 10 milliards de dollars supplémentaires, probablement parce que comme ça, ça lui laisse les coups des franges pour d'autres dépenses guerrières. Mais sur ces 10 milliards supplémentaires, il y a 1 milliard de dollars qui va aller au fond. Les 9 millions de dollars restants, ce sera de l'aide bilatérale américaine, et on peut se douter que ça fera plutôt appel aux produits des laboratoires pharmaceutiques américains qu'à des médicaments génériques. Donc ça, c'est une initiative. Une organisation comme Médecins Sans Frontières, avec en France l'Institut Pasteur, des chercheurs dans le monde, lance également aussi une initiative qui s'appelle le médicament contre les maladies négligées, le sigle anglo-saxon, c'est DND, et qui vise finalement, pour des maladies encore plus oubliées que sont le sida, la tuberculose ou le paludisme, la maladie du sommeil par exemple, d'essayer de faire en sorte de mettre en relation des chercheurs et des moyens de pouvoir développer des nouveaux traitements pour ces maladies qui sont là véritablement totalement négligées. Deuxième donc type d'initiative. Et puis il y a une chose élémentaire, et c'est déjà ce que vous faites par exemple avec votre émission, c'est d'en parler, c'est de faire en sorte que ces sujets qui étaient absolument ignorés du grand public, disons avant 1998-99, perce dans les médias, soit connu du public, et puis on a bien vu, on a eu aussi la chance que ça rentre en résonance avec un rejet à l'échelle internationale d'une certaine mondialisation, et donc de faire en sorte de comprendre les mécanismes qui font que internationaux, qui font que on laisse une catastrophe continuer à se dérouler et à empirer.
Oui. Eh bien, il y aurait peut-être une solution aussi, c'est de se tenir encore plus au courant en lisant le livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Mort sans ordonnance », qui a été publié au printemps 2002 chez Hachette Littérature. Et puis, on doit pouvoir, je pense, trouver aussi des informations pas inintéressantes, voire même peut-être des actions à faire sur le site de Médecins Sans Frontières, qui doit être tout bêtement www.msf.org ou .org. .org, j'avais raison. Mais la semaine prochaine, nous ferons une émission avec Alain Caillé sur la compétitivité internationale, la mondialisation. C'est un sociologue, on va essayer de planer haut.